tirer des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurence Alanic,
Baptiste Antoine,
Maïsa Costache.
Bonjour, bonsoir. Il est sans doute le plus américain des crooners français vivants. Il a un physique de jeune premier. Il faut dire qu'il a à peine 30 ans. Mais cette voix éraillée et patinée pourrait le faire passer pour un noir américain. Il est l'auteur, compositeur, interprète des 11 chansons de son troisième album qui nous balade entre blues, jazz, pop, rock et même un zeste d'électro. Sometimes Awake de Charles Pazzi est sorti chez Believe. Et vous m'en direz des nouvelles.
Bonjour.
Quelques notes de Lazy Lady, une des mélodies de cet album Sometimes Awake. Sometimes Awake, ça se traduit par parfois éveillé. Est-ce que vous êtes bien éveillé, Charles Pazzi, aujourd'hui?
Ça commence là.
Ouais. Bien réveillé alors,
bien
plus
réveillé.
Qu'éveillé.
Voilà.
Ouais. Vous êtes réveillé assez tard d'ailleurs, finalement, puisque votre carrière, vous l'avez commencé déjà quand vous aviez 16 ans, je crois, c'est ça?
C'est 17 ans.
Ouais. Oui, c'est une vocation qui est arrivée sur le tard?
Ah bah complètement sur le tard, et puis très, vraiment petit à petit, c'est-à-dire que je me suis pas dit tout de suite du tout que j'allais faire de la musique, surtout quand on commence à 16-17 ans par l'harmonica.
Oui, voilà, c'est pas évident. Hein.
Voilà, on essaye de, voilà, on rêve à courte distance, on va dire, voilà. Donc,
Alors quel était le déclic?
Bah le déclic, ça a été... j'ai acheté un harmonica en fait parce que j'écoutais Dylan, je suis un fan de Dylan, mais qui joue... franchement pas très bien de l'harmonica, il a une petite couleur.
Il a d'autres qualités.
Ah oui, bah évidemment. Mais pour l'harmonica, mais déjà j'aimais bien en fait cette sonorité, mais je pensais pas que qu'on pouvait aller plus loin en fait à l'harmonica. Pour moi c'était ça l'harmonica, et puis comme pour beaucoup de gens en fait. Et en fait, du coup je me suis un peu renseigné sur qui étaient un peu les grands noms de l'harmonica. Et puis donc je suis tombé sur des Little Walter, des Sonny Boy Williamson, des Sonny Terry, et puis j'ai découvert un monde que je soupçonnais pas du tout. Et là je suis tombé amoureux, quoi. Donc je me suis dit je vais essayer de me rapprocher de ça, quoi.
Ouais, vous auriez pu jouer uniquement de l'harmonica, le chant, c'est venu naturellement se superposer.
Bah le chant, moi j'ai toujours chanté depuis que je suis petit, pas professionnellement ou pas, j'ai pas fait d'école, etc. Mais j'ai toujours chanté, on a toujours chanté en famille, et puis j'ai toujours voilà, j'ai toujours bien assimilé les paroles des textes depuis gamin, quoi. Je fais attention aux paroles, ça c'est quelque chose qui me touche. Donc au moment de me dire au moment de me dire que j'allais faire de la musique, je me voyais pas ne pas chanter, ne pas écrire, ne pas voilà.
Donc auteur, compositeur, interprète, il vous fallait les trois de toute façon. Alors cet album, quand on l'écoute, moi je trouve qu'on l'apprécie vraiment dans la pénombre, hein, avec peut-être une lumière d'une bougie, guère plus. Est-ce que c'est comme ça que vous composez, Charles Pazzi?
Bah un peu, ouais, c'est vrai. Bah d'ailleurs ça touche un peu, le titre touche un peu à ça, hein, au côté un peu un peu nocturne, un peu entre réveil et sommeil.
Oui.
Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est plutôt nocturne.
Mais plutôt à l'aube ou plutôt au crépuscule alors, s'il y a une petite source de lumière.
C'est entre les deux, on va dire.
Entre les deux.
Voilà.
Ouais. Vos textes sont d'ailleurs quand même assez sombres hein, si on y fait attention. Et pourtant, votre musique, elle est très très colorée. Alors, de quel côté est-ce que vous penchez?
Je crois que c'est un contraste. En fait, c'est un équilibre. C'est-à-dire que j'aime bien, effectivement, j'aime pas forcément que les textes suivent à la lettre ce qu'évoque la musique. Comme ça, on a deux fois plus de choses à dire.
Et vous commencez par les textes ou par la musique?
Ça dépend. Mais non, souvent c'est la musique quand même. Souvent, je trouve des harmonies qui me plaisent. Et puis là-dessus, le texte vient assez naturellement en général. Le thème et le texte arrivent.
Alors c'est votre troisième album, Charles Pazzi. Vous travaillez d'ailleurs pour la première fois avec un réalisateur. Ça change tout?
Ça change tout. Pour moi, ça changeait tout parce qu'au bout de deux albums que je tenais vraiment à faire seul et à réaliser seul avec les idées que j'avais, je voulais vraiment que ce soit d'être seul sur la réflexion des arrangements, etc.
Ouais.
Mais quand je trouvais que j'étais un peu arrivé à... j'avais un peu épuisé mes ressources.
Vous aviez plus d'idées pour vous en sortir tout seul?
J'avais quand même
possible.
Des idées.
Deux albums.
J'avais des idées, bon. Mais je voulais essayer ça en fait. C'était un nouveau truc pour moi, donc j'avais un peu peur au début parce que je me suis dit tiens, un mec qui va mettre les mains dans ma musique, ça me rassurait pas. Et puis en fait, je suis quand même tombé sur un gars super qui s'appelle Jean-Philippe Verdun, qui a une culture musicale. Incroyable, qui vient vraiment, qui a un père qui était un grand collectionneur de jazz, de disques de jazz, donc il a une culture jazz phénoménale, et en même temps, il connaît la musique électronique sur le bout des doigts, donc voilà, c'est quelqu'un qui a une vision très large, donc il a quand même apporté vraiment quelque chose.
Et y compris donc quelques notes électro, précisément.
Oui, un peu de sampling, c'est vrai que j'avais jamais fait ça, sur des batteries. Des batteries samplées ou des loops d'ambiance. Et c'est vrai que doser vraiment, c'est bien que vous l'ayez remarqué parce que plein de gens le remarquent pas, par exemple, parce que ça doit être très léger, c'est vraiment un peu de maquillage comme ça, mais je voulais pas non plus faire un disque électro, quoi, c'était pas le propos.
Oui, et en même temps, vous avez pas de style vraiment défini, quoi. Très clairement, vous avez envie de papillonner un peu et de naviguer entre les différents styles.
Parce que moi, c'est de là où je viens musicalement, quoi. J'ai jamais fait d'un style, une religion, comme on peut voir, même adolescent, où on a envie de s'identifier, donc les mecs, ils sont très, ils s'habillent reggae, ou bien ils s'habillent rock, il y a vraiment un truc qui va. Non, moi, j'ai jamais été comme ça, quoi. Donc, j'ai toujours aimé, un peu tous les styles de musique, quoi, avec quelques réserves pour certains, mais globalement, j'écoutais tout et je continue à écouter tout très volontiers. Donc, au moment de composer, je pense que ça ressort naturellement, quoi.
Where a man's got to be a man.
Man I Know, il y a à la fois de la classe, Charles Pazzi, du swing, de la mélancolie dans ce premier morceau. C'est vraiment comme ça que vous ouvrez cet album Sometimes Awake. Ça installe tout de suite justement cette dimension très charmante et ce côté on navigue vraiment entre le blues, la soul. Il y a des accents reggae aussi hein, dans l'album. Il y en a même pas mal. Laurent Salanik me le faisait remarquer à juste titre tout à l'heure. Des accents pop aussi. D'ailleurs, votre précédent album, on va remonter un tout petit peu en arrière, ouais. Il s'appelait Uncaged. Ouais. Et finalement, c'est une bonne définition de la façon dont vous entrevoyez votre musique.
Oui, bah c'est ça. Bah c'est ce que je voulais en fait. C'était un peu bon la cage, un peu comme métaphore d'une étiquette quoi que je voulais pas. Donc je voulais pas être mis en boîte, en cage. Je voulais. Et puis voilà, j'avais pas envie de faciliter le boulot à l'industrie, à savoir ouais. Où est-ce qu'on. Donc ça me faisait marrer parce ouais. qu'en à la Fnac, ils me mettaient en jazz. Ouais. Après, d'un coup, j'allais au Virgin, j'étais en pop international. Ouais. Et puis d'autres, ils me mettaient en variété française.
Ouais. C'est compliqué pour les fans, ça, alors.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y ait. Enfin, c'est-à-dire quoi, la notion de définition de ce qu'on fait, c'est assez loin de moi. Mmh. C'est vrai que j'ai du mal à accepter le fait qu'il faille à tout prix. Savoir ce qu'on fait. Quoi.
Ouais. Vous le disiez à l'instant, Charles Pazzi, dans certains magasins, on vous range aux variétés françaises. Alors, ah ça, oui, c'est intéressant ouais. parce que vous êtes ouais. clairement français, vous parlez ouais. sans accent, vous êtes franco-italien d'origine, ouais. hein, c'est bien ça. Et pourtant, votre musique, elle est américaine, non?
Ah oui, elle est influente. Bah, je dirais pas qu'elle est américaine. Je dirais c'est une musique, je vais pas dire française, mais c'est une musique européenne. Enfin, c'est une musique américaine aux influences américaines, afro-américaine, mais interprétée. Par un Européen, donc je pense que ça sonne pas si américain que ça en fait.
Ouais, parce que vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis.
Oui, oui. Passé, oui, c'est un
votre
peu
formation mal. Musicale oui, date de cette époque.
Oui, c'est beaucoup là-bas, quoi. Même inconsciemment, quand on y va depuis qu'on est tout petit.
Mais alors où ça, vous êtes allé dans le delta du Mississippi ou
non? J'ai pas encore pas fait ça. Tout. Je vais faire Louisiane, Mississippi bientôt là. Mais non, j'ai beaucoup été en Floride, Californie, New York, Chicago.
Donc c'est pas le blues du Delta qui vous a
j'adore
directement
le blues du
influencé.
Delta. Mais non, c'est pas forcément ça. Et c'est assez difficile de vraiment pointer de façon très très ciblée mes influences quoi. Même au niveau des artistes, certains artistes, je pourrais pas dire consciemment il y a lui qui m'a. Même si voilà, il y en a que j'adore, mais c'est pas vraiment comme ça que je fonctionne quoi.
Et pourtant, donc vous disiez vous avez vécu aux États-Unis, vous le disiez vous êtes européen, français mais vous chantez absolument pas en français. Donc c'est absolument exclu qu'on puisse un jour chanter ce type de musique là en langue française.
Non, c'est pas exclu, je pense que ça peut se faire. Je pense pas que ce sera moi qui je le ferai pas.
Et pourquoi?
Parce que je trouve que sur un disque comme ça si je l'imagine en français non, enfin je trouve que ça sonne pas. Enfin, au niveau des sonorités, ça aurait pas collé avec cet album-là. Après, chanter en français, pourquoi pas, mais j'aurais jamais fait ce disque-là en français,
ouais,
par
ouais,
contre.
Ouais. Et puis l'avantage, c'est que quand on chante en anglais, ça permet de s'exporter beaucoup plus facilement aussi.
En plus, on est compris, voilà, dès qu'on sort, parce que moi, je joue beaucoup à l'étranger. C'est vrai que ça. On nous comprend, quoi. En France, pas forcément. Enfin, oui. En français, pas forcément.
Oui, c'est vrai qu'au Japon, vous avez fait un tabac.
Bah, un tabac, ouais, on a été bien accueillis, ouais. On a été bien accueillis. Ils ont vraiment un goût
mais
pour la musique.
Mais comment ça se fait que comme ça vous ayez pu percer comme ça au Japon?
Bah, je sais pas, parce que déjà ça fait quelques années que les disques sont distribués là-bas.
C'est à cause du concours que vous avez. Vous avez participé à Memphis, c'est ça?
Ouais, l'International Blues Challenge où le disque en fait a été envoyé là-bas. Donc
ouais. 5 finalistes, 4 américains, un européen, c'était vous.
Ouais. Ouais, donc et puis donc c'était mon tout premier album, j'avais 22-23 ans. Donc les mecs se sont demandé qui c'est et ils se sont demandé qui était le gars. Donc ils nous ont appelé, il y a eu pas mal de radios qui nous ont appelé des États-Unis et vu que c'est un truc un peu suivi un peu dans le monde à l'échelle des amateurs de blues en tout cas.
Bien sûr.
Oui, j'ai eu un distributeur japonais qui m'a appelé, des festivals au Canada, j'ai eu une radio polonaise. Enfin bon, ça a fait un peu de, mais ça m'a vachement aidé parce que vu que j'étais tout seul complètement, voilà, les gens m'appelaient un peu et ça m'a permis d'avoir un peu de promo quoi.
Nouvel extrait de ce troisième album de Charles Pazzi sur RFI dans Vous m'en direz des nouvelles. Vous avez donc beaucoup d'amis. Charles Pazzi est parmi vos amis. Il y en a un qui s'appelle Archie Shep. C'est fou ça.
Ouais.
Excusez du peu, comme à peine 30 ans, vous avez joué avec Archie Shep qui vous a accompagné déjà.
Ouais, bon, il m'a accompagné. Je l'ai invité sur deux morceaux de mon précédent album. Et ça s'est fait, c'était une histoire un peu assez incroyable.
Alors, racontez-nous, quoi, vous êtes allé au culot.
Ah bah oui, complètement. C'est-à-dire que je l'ai, j'entendais, bah je me remettais à écouter à Archie Shep, l'album Blasé et Attica Blues, et qui étaient des disques que j'avais depuis des années. Et à ce moment-là, j'écoutais ça et j'avais un morceau où je voulais vraiment une partie à la fin. Il y avait vraiment toute une plage pour un solo. J'ai essayé de le faire, le solo. J'ai pas aimé. J'ai fait faire mon guitariste, j'ai pas aimé non plus, c'était pas ça que je cherchais.
Ouais.
Et je me suis dit, il me faudra en fait le son d'Archie Shep, c'est ça que je veux, quoi. Quelque chose d'écorché avec ce son-là, quoi. Et j'ai su qu'il habitait à Paris, je me suis dit, bon, bah, t'as pas grand chose à perdre. Donc je l'ai appelé, enfin, j'ai appelé son agent, qui est sa femme.
Ah, c'est plus simple, ça simplifie les choses,
ouais. Voilà, donc je lui ai dit, je me suis présenté comme je pouvais, en me disant qu'elle me connaissait pas et que c'était normal, et que j'étais en autoprod total, et que j'étais fan de ce que faisait Archie Shep, et donc, voilà, je rêvais de la voir sur un titre. Donc elle m'a un peu, très gentiment calmé, en disant que bon, bah, et voilà, on l'appelait souvent, puis il était très pointilleux sur ce qu'il faisait, et puis il refusait beaucoup de projets. Et puis parce que oui, j'ai dit aussi que j'avais pas d'argent en fait,
ouais.
Donc très, très très peu quoi. Donc c'était pas. Et elle m'a dit quand même envoie-nous une maquette, donc je lui ai envoyé 3-4 titres et elle m'a rappelé 4 jours après en disant qu'il avait bien aimé et qu'il avait même qu'il était d'accord pour jouer, voilà, sur le titre et qu'il en aimait même un deuxième, donc il s'est retrouvé sur. Donc il a demandé est-ce qu'il peut jouer aussi sur celui-là.
Voilà, donc quand on a du talent, on peut oser et il n'est pas exclu qu'on réussisse un jour, effectivement,
oui, à décoffer.
Archie Shep. Charles Pazzi, on va marquer une courte pause et on va parler de votre passion, l'harmonica, avec un autre harmoniciste que vous connaissez d'ailleurs, il s'appelle Alexandre Tolon.
Ah oui.
Et il va nous rejoindre dans un peu plus de 3 minutes sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
Toujours avec Charles Pazzi pour son album Sometimes Awake chez Believe.
What did it take for you to have it all? the world you live in, but your grinning face is slowly fading. You've got everything you need, more than you can spend, but you keep it all to yourself.
Little Love, un titre jazzy et tonique sur lequel on entend votre harmonica, Charles Pazzi, comme d'ailleurs sur quasiment tous les titres de cet album. C'est un instrument fétiche, l'harmonica, au-delà du plaisir que vous avez à en jouer.
Bah, pas vraiment. Moi, je le prends pas comme ça. Peut-être que certains, pour la simple raison que ça se jette en fait. L'harmonica.
Ça se jette un harmonica.
Oui, oui,
bah. Vous avez jeté votre premier harmonica là, celui que vous avez acheté grâce à Dylan là, dont vous parliez tout à l'heure.
Ah, peut-être. En tout cas, si je l'ai, je sais plus lequel c'est. Hein,
ah, d'accord. Parce que j'en ai. Vous n'avez pas d'attachement particulier à l'objet.
Bah non, parce que voilà, ça rouille, ça se casse, ça se désaccorde. Alors, il y en a qui passent leur temps à réaccorder, à limer les lamelles, etc. Pour les. Mais franchement, non.
Bon, pourtant, il y a très très beaux objets. Alexandre Tolon, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint. Vous êtes également harmoniciste et vous êtes arrivé avec un étui rempli d'harmonica. Il y a vraiment des objets absolument magnifiques. Ceux-là, vous n'allez pas les jeter. Rassurez-nous.
Mais c'est pas du tout les mêmes. Je vois l'harmonica qu'a Charles Pazzi actuellement. C'est un spécial 20. C'est un harmonica qui est fabriqué en série.
Ouais.
C'est vrai que les harmonicas qui sont fabriqués en série, on va dire qu'ils ont une durée de vie assez limitée. C'est des très bons harmonicas. On peut tout à fait faire des concerts avec, mais on peut pas avoir d'attachement à ces instruments-là. Parce
d'accord.
que, je sais pas combien de temps tu les gardes, moi je les gardais à peu près un an. Et
ouais,
puis...
moi c'est ça. Hein.
Ah oui, donc ça se détériore très très vite en fait,
ouais,
c'est
bah
ça,
oui,
parce
ça
que
ça
vous leur faites subir un choc à votre instrument.
À l'intérieur, c'est des lames qui vibrent. Les lames, selon le fabricant, elles peuvent être en inox, en laiton, enfin peu importe. Au bout d'un moment, avec les vibrations... il y a une usure qui se fait, je sais pas comment parce que je suis pas physicien, je suis pas dans le métal, mais il y a une usure qui se fait.
Ouais.
Et au bout d'un moment, ça sonne mal et ça commence à mal sonner, ça commence à se désaccorder et c'est plus bon à rien. Donc au bout d'un moment, effectivement, on les jette. Moi, les instruments que j'ai sont des instruments qui sont fabriqués par un luthier. Donc effectivement, bon, je suis quand même obligé de changer les lames pour des problèmes d'usure, mais l'harmonica en lui-même, je peux me permettre de le garder puisque c'est des harmonicas qui sont fabriqués en bois précieux, c'est un le Stradivarius de l'harmonica, si vous
ouais.
voulez. Et
alors, c'est intéressant que vous parliez du violon, parce que quand on pense harmonica, on pense plus à accordéon. Non, c'est des instruments
ouais.
cousins.
L'accordéon et le violon?
L'accordéon et l'harmonica. On va laisser tomber le violon. Enfin,
pardon.
Le Stradivarius, on va pas le laisser tomber. On va le déposer tranquillement
ouais,
sur la table
non,
du studio.
Vous allez vous faire des ennemis.
Ça vaudrait mieux. Mais alors, l'harmonica et l'accordéon.
C'est des instruments à hanche libre. C'est des instruments qui viennent d'un instrument chinois qui a été importé au XVIIIe siècle en Allemagne, que nous, en Europe, on appelle le Sheng, mais apparemment, ça s'appelle pas comme ça. J'ai eu une copine chinoise qui m'a dit comment ça s'appelait, et je lui ai répondu à tes souhaits, parce qu'on n'arrive pas à prononcer le nom.
Ouais.
C'est pas possible. Et en fait, cet instrument était constitué de... Je sais même pas d'ailleurs comment c'est fait, donc je vais éviter de parler de ce que je connais pas.
Ouais. Bah, vous mais avez ça... une sacrée science, hein. Visiblement, vous êtes un puits de science sur l'harmonica.
Hein. Merci beaucoup.
Vous, vous enseignez aussi
oui,
l'harmonica.
Oui, c'est exact.
Voilà, à l'école Utopia à Paris. Hein.
Exactement.
Il y aura d'ailleurs un concert de vos élèves dimanche prochain, je crois.
Dimanche à 18h à l'Utopia, oui. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, cet instrument, il a influencé, il a inspiré des luthiers dans l'Allemagne du 19e siècle. Et donc, ces luthiers ont commencé par fabriquer des prototypes, dont certains s'appelaient une aura, d'autres... l'aura, c'est un peu l'ancêtre de l'harmonica. Ensuite, ça a fait le mélodica, l'accordéon, le bandoneon et l'harmonica. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est des instruments qui sont cousins.
Alors, on va vous écouter, Alexandre Tolon. On va écouter Think Big, extrait de votre dernier album qui s'appelle Opus 4. Think Big et Alexandre Tolon sur RFI, c'est un morceau de votre composition ?
Tout à fait.
Parce que vous composez également ?
Oui, la plupart des morceaux qui sont sur l'album, enfin d'ailleurs tous les morceaux qui sont sur l'album, à l'exception de la reprise Amazing Grace, qui est un traditionnel américain, sont des compos à moi, oui.
Alors un personnage qui vous a influencé, je crois, c'est un Belge qui s'appelle Todd Stillmans. Alors je sais pas si je prononce bien son nom.
Todd Stillmans, on prononce Todd Stillmans.
Todd Stillmans, voilà. Il vient de mettre un terme à sa carrière il y a quelques mois à peine, hein, il y a 91
oui,
ans.
Oui, oui, voilà. C'est un vieux monsieur maintenant, donc il met un terme à sa carrière.
Il a plus de 70 ans de carrière, donc c'est quand même
c'est long.
Mal. Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer la marque qu'il a eue sur la façon de jouer de l'harmonica?
Je suis pas tout à fait un spécialiste de Todd Stillmans, mais ce que je pourrais dire, je pense que ça a été le premier harmoniciste à vraiment jouer avec des jazzmen de renom. Il a notamment fait un album avec Bill Evans, qui je crois s'appelle Infinity, mais je ne suis plus sûr. Non, c'est ça, tu penses?
Oui, Charles Pazzi confirme.
Ok. Donc effectivement, il a fait un album avec cet individu, avec ce grand musicien. Ouais, avec cet individu, ça va pas du tout.
C'est très naturel, c'est vous inquiétez pas.
Bon, voilà. C'est pas grave, on reprend. Et donc, il a refait un album avec Bill Evans, avec d'autres grands musiciens, il me semble. Et donc, ça a été le premier, on va dire, à faire passer l'instrument pour véritablement un instrument de musique et plus un jouet pour enfants.
Donc, c'était pas gagné.
C'était pas gagné du tout au départ.
C'est-à-dire, au départ, l'harmonica était méprisée dans la communauté musicale?
Je sais pas si on peut parler vraiment de mépris, on peut plutôt parler de méconnaissance. Déjà, le fait que l'harmonica soit un instrument de musique, c'est un accident. Au début, ça a été fabriqué de manière totalement industrielle, d'ailleurs ça l'est toujours, mais c'était fabriqué comme un jouet pour enfants ou un bijou pour dames. Et c'était fabriqué de façon pas chère. Voilà, on en distribuait. Il me semble même que au moment des premières guerres mondiales, on distribuait dans l'armée. Vous voyez, des choses comme ça. Donc il y avait un côté vraiment vraiment jouet, vraiment instrument convivial, mais pas vraiment instrument de musique. Les premières harmonicas étaient diatoniques, c'est-à-dire qu'ils manquent des notes. Et ils étaient faits pour jouer de la musique un peu folklorique, des choses un peu de ce genre. Et en fait, le fait qu'il manquait des notes, c'était rébarbatif pour tous ceux qui voulaient vraiment exprimer quelque chose musicalement. Et donc, les harmonicistes, au fur et à mesure de l'évolution de l'harmonica, ont dû trouver des astuces pour trouver les notes qui manquaient, en gros. Par l'intermédiaire de certaines techniques, comme une qu'on appelle le bending, qui est en gros ce qu'on entend sur la plupart des albums des harmonicistes blues. Ça consiste à prendre une note et à la bender comme un guitariste qui tordrait sa corde.
Okay.
De cette façon, ou alors d'autres techniques beaucoup plus récentes qu'on appelle overblow, qui est une technique qui est très mal nommée parce qu'on souffle pas du tout plus fort, qui consiste à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire à rehausser une note.
D'accord, c'est un bon prof, hein, Charles Pazzi.
Ah, super, moi j'adore, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Voilà.
Oui, donc effectivement, il y a plein de possibilités. Donc ça veut dire que dans le jeu et dans l'instrument, on a beaucoup évolué finalement au fil des ans.
On continue à inventer de nouvelles choses. Déjà, il y a des harmonicistes qui trouvent des techniques sans arrêt. Et puis, il y a aussi des bricoleurs qui essayent de faire évoluer l'instrument, de l'améliorer. Vous savez, c'est un instrument qui est très jeune. Donc, naturellement, il y a des évolutions. Le violon, il s'est pas fait en un jour. On parlait de violon tout à l'heure. Le violon n'a pas eu quatre cordes tout de suite, par exemple.
Oui,
il n'y a plus qu'un luthier mettre la quatrième corde.
D'accord. Donc, effectivement, les choses ne sont pas figées. Alors, vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure, Alexandre Tolon. On va aller en Allemagne, précisément, pour évoquer le festival de Trossingen. C'est un festival qui se déroule dans la région du lac de Constance. Bonjour, Pascal Thibault.
Oui, bonjour Jean-François.
Vous avez d'ailleurs, Alexandre, remporté un prix là-bas. Et il faut dire, Pascal, que Trossingen, c'est un peu la capitale mondiale de l'harmonica. Hein. La saga, je crois, a commencé là-bas au milieu du 19e 19e siècle, c'est ça?
Oui, effectivement, ça remonte déjà à pas mal de temps. Il y avait déjà sur place des petits fabricants, plutôt artisanaux, jusqu'au moment où un horloger, Matthias Hohner, eh bien, a fait en quelque sorte de l'espionnage industriel. Il est venu un peu voir à quoi ça ressemblait et comment les collègues, ou ceux qui allaient devenir ses collègues, ou ceux pour lesquels il a été devenir un collègue, fabriquaient ces petits instruments. Et lui, il a vraiment lancé ça à une échelle industrielle. Il a aussi profité d'une immigration assez importante des Allemands aux États-Unis pour exporter massivement ces harmonicas vers les États-Unis. Donc déjà à cette époque, l'exportation allemande se portait bien. Les deux tiers de la production étaient exportés vers les États-Unis dès 1879. Et en 1857, date à laquelle il crée sa société, on produisait 650 harmonicas. Et 30 ans plus tard, 1 million. En 1900, 3 millions. Il y avait déjà 1200 salariés. Donc déjà une grosse PME. On s'est diversifié avec l'accordéon qui est arrivé au début du XXe siècle dans cette société Matthias Hohner et qui a continué à bien se porter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en reprenant notamment des concurrents.
Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, Pascal, cette saga industrielle est derrière nous?
Oui, depuis 1945, la société a un peu manqué certains tournants pour se renouveler en termes de en ce qui concerne la palette des instruments ou aussi en ce qui concerne l'arrivée sur le marché en quelque sorte de nouveaux styles musicaux. Par exemple, un des responsables de la société après la Deuxième Guerre mondiale pensait que le rock c'était une mode qui allait rapidement disparaître et c'était évidemment une mode qui a duré et qui demandait aussi peut-être d'autres instruments que la société n'a pas produit. Du coup, dans la moitié des années 80, on était au bord de la faillite, on perdait de l'argent, la société a dû vendre sa collection impressionnante à la région du Bade-Württemberg et elle a été reprise 10 ans après, ironie du sort et témoignage d'une histoire qui évolue, à une société de Taïwan.
Ah, effectivement, donc du côté de l'Asie. Alors, ce glorieux passé que vous nous racontez, Pascal, est-ce qu'il a laissé quelques traces que l'on peut voir encore aujourd'hui à Trossingen?
Oui, tout à fait. Alors, il y a, j'évoquais cette collection qui était cédée à la région. Eh bien, cette collection, elle a débouché quelques années plus tard, en 91, sur l'ouverture d'un musée de l'harmonica, avec 25 000 harmonicas retraçant 170 années consacrées à cet instrument, ou à beaucoup d'instruments. Mais il y a aussi, on fait un peu dans le multimédia, avec des films de fiction, des documentaires, des jeux vidéo, dans lesquels l'harmonica joue un rôle important. Et puis, à Trossingen, on a évoqué tout à l'heure le Festival mondial de l'harmonica qui s'y tient, mais il y a aussi une école de musique, un conservatoire, une académie de musique. Donc il y a aussi toute cette tradition musicale qui subsiste, même si, encore une fois, l'ère industrielle n'est plus ce qu'elle a été à un moment donné.
Pascal Thibault à Berlin pour VMDN sur RFI. Merci. Alors vous évoquiez, Pascal, le cinéma. Il faut dire qu'il y a de grands moments d'harmonica au cinéma. Par exemple, vous allez tous le reconnaître, ceci. Il était une fois dans l'Ouest, de Sergio Leone. Évidemment, le thème est signé Ennio Morricone. Il y a aussi le thème de Jean de Florette, dans le film de Claude Berry, sur une musique de Jean-Claude Petit, d'après Verdi. Choisir Bagdad Café aussi, que vous évoquiez tout à l'heure, Alexandre Tolon. Moi, j'ai préféré choisir une autre scène un petit peu moins connue, celle-ci. Ça vous dit rien? Fantasy, ça vous dit rien? C'est un extrait d'un film qui s'appelle « Mais qui a retué Pamela Rose ?»
Ah ouais.
Ah
oui,
exactement. Oui, ça vous dit quelque chose? Vous avez reconnu le
style?
Oui,
ouais, mais alors je me dis, mais pourquoi
il s'appelle Sarpazi, là, celui qui joue dans le...
D'accord.
Parce que Kadmerad a son harmonica à la bouche, mais c'est pas lui qui joue. Visiblement, lui a pas fait confiance.
Non, mais alors je me dis, mais pourquoi je fais n'importe quoi comme ça? Pourquoi je tartine comme ça? Et en fait, c'est effectivement une scène qui avait été tournée avec Kadmerad dans ce film qui a retenu Pamela Rose, où en fait, il faisait vraiment n'importe quoi. Il parcourait la l'harmonica de haut en bas, donc fallait un truc qui suive ça. Et en même temps, il voulait quelque chose d'assez d'assez virtuose, où on voit que bon, le mec touchait quand même sa bille. Ouais. Donc fallait doubler, mais tout en suivant tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire que la scène, lui, il faisait vraiment n'importe quoi, donc fallait quand même coller à l'image.
Donc fallait pas être trop bon, quoi, d'une certaine
grave
façon.
Grave aigu, mais fallait en même temps fallait pouvoir se planter un peu, fallait qu'il y ait des espèces de trucs un peu. Donc voilà, on a bien rigolé en tout cas. Moi, j'ai bien rigolé à faire ça, quoi.
Ouais, vous avez travaillé plusieurs fois pour le cinéma. Il y a eu ce film-là, il y avait un autre avec Garrel aussi.
Bah, j'avais doublé aussi. Dans le genre doublage, j'avais doublé Dubosc. Finalement, je sais plus ce qu'ils ont pris. Voilà, il m'avait demandé à un moment, il fait un western dans Cinéman, il est dans un western, c'est un peu une parodie de justement, il était une fois dans l'Ouest. Donc il sort son harmonica, il fallait jouer Vanina de Dave.
Ah oui, grand classique de l'harmonica, s'il en est, bien sûr.
Donc j'avais adapté ça. Et puis le cinéma, j'ai adapté aussi. I Will Survive, guitare, harmonica, fallait faire ça pendant 8-9 minutes dans le film Actrice de Valéria Bernitelli. Voilà, j'aime bien, dès que je peux.
Bon, Alexandre Toulon, qu'est-ce qui est le plus dur dans l'harmonica aujourd'hui? Si moi je viens vous voir dans votre école, je vous dis j'ai vraiment envie mais j'ai un peu peur, qu'est-ce que je dois redouter le plus? Parce que ça fait peur, hein. Certains disent, les Canadiens par exemple, l'harmonica, ils l'appellent le ruin babine. Alors, il y a de quoi faire peur quand même.
Ah non, mais le ruin babine, je pense que c'est pas dans ce sens-là.
Ah bon,
le ruin babine,
votre bouche a pas l'air trop abîmée, hein.
Déjà premièrement, ça n'abîme pas la bouche, ça ne déforme pas la mâchoire, on n'a pas de séquelles en jouant, hein, particulièrement. Le ruin babine, je pense que ça vient de certains accents blues, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, il y a certaines formes d'embouchure qu'on prend pour avoir certains effets. Et que ça peut éventuellement donner cet effet-là. Mais, après, qu'est-ce qui est particulièrement dur sur l'instrument? J'essaye de ne pas raisonner en termes de difficulté. Ah. Parce que,
On reconnaît le pédagogue.
Je ne sais pas ce qui est dur, en fait. Très franchement. Et je dis pas ça.
Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce que avoir du souffle, c'est extrêmement important ou pas?
Non. C'est pas un instrument physique, l'harmonica. C'est pas une trompette. Déjà, vous faut pas souffler fort. Pas du tout. Au contraire, quand on a un élève qui a pratiqué un autre instrument avant, la première chose qu'on doit lui apprendre, la première chose qu'on doit lui dire, c'est à la limite, ne souffle pas. Fais comme si tu soufflais pas.
D'accord.
Parce que sinon, on a tendance à mettre trop d'air et à saturer les lames. Donc, il vaut mieux éviter. Ensuite, pour revenir un peu à la difficulté, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tant qu'on ne sait pas quelque chose, c'est dur. Quand on sait le faire, ça devient facile.
Oui.
Donc, il n'y a pas tellement d'histoire de difficulté. Peut-être que plus là où je mettrais l'accent, c'est que ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est de faire comprendre que l'harmonica peut être un instrument de musique. Et à ce moment-là, on peut essayer de comprendre comment la musique fonctionne pour vraiment bien jouer de l'harmonica. C'est-à-dire que maîtriser la technique, maîtriser un instrument, c'est une chose. Mais si vous comprenez pas les rouages de la musique, si vous comprenez pas comment ça marche, c'est un peu comme être capable de tourner le volant sur une voiture, mais pas savoir où est l'accélérateur.
D'accord. Donc effectivement, c'est très clair. Il y a toutes les images du pédagogue. Enfin, franchement, c'est assez impressionnant.
C'est très bien.
Alors, vous êtes arrivés tous les deux, Charles Pazzi avec un harmonica et vous, Alexandre Toulon, avec toute une série d'harmonica. On vous a déjà entendu en direct tout à l'heure. Vous avez accepté de nous faire un petit duo en impro, messieurs. On vous écoute. L'antenne est à vous.
D'accord. Si on s'attarde, vous nous coupez. Hein.
Allons-y.
Thank you.
Merci beaucoup Alexandre Tolon et Charles Pazzi en live dans Vous m'en direz des nouvelles sur RFI. Alors là, vous avez regardé, évidemment, la vidéo va être mise en ligne sur sur les réseaux sociaux de l'émission, évidemment. Vous avez pas du tout la même façon de jouer techniquement. Alors peut-être que je me trompe totalement, mais alors vous, Charles Pazzi, vous jouiez avec vos mains un petit peu comme un éventail, comme un cornet, je sais pas comment décrire ça à l'antenne. Vous, par contre, vos mains, Alexandre Tolon, étaient beaucoup moins mobiles. On va dire, expliquez-nous.
Tu me permets de décrire ta façon de jouer ?
Allons-y, okay. Allons-y, avec des mots un peu plus professionnels que les miens, j'imagine.
En fait, je pense, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, mais je pense que Charles est très imprégné justement de ce dont il parlait en début d'émission, c'est-à-dire le style de Little Walter, de tous les vieux bluesman afro-américains du début du siècle, où effectivement on jouait beaucoup avec des effets de rythmique, des effets de mâchoire, des articulations, des effets de main, des choses un peu qui permettent de faire des grosses articulations de ce genre. Je ne prétends pas sonner exactement pareil, bien sûr.
Oui, non, mais effectivement, ça se ressemble.
Moi, je suis un peu plus, la façon dont j'essaye de sonner, parfois j'essaye de ne pas faire sonner mon harmonica comme un harmonica.
Ah.
Je suis assez influencé par des musiciens de jazz, des gens comme Wayne Shorter, comme Miles Davis, comme Roy Hargrove. J'écoute beaucoup Roy Hargrove en ce moment, comme Herbie Hancock. J'essaye de puiser des sources d'inspiration là-dedans et donc de chercher d'autres façons de phraser.
Voilà. Vous avez encore des choses à apprendre en matière d'harmonica, Charles Pazzi ?
Ah ben il y a toujours des choses à apprendre, mais effectivement. Enfin, par rapport à ce qu'il dit, alors moi c'est vrai que j'aime bien j'aime bien les anciens, et en même temps j'aime bien plein de choses modernes aussi, c'est-à-dire que j'adapte plein de trucs à l'harmonica. Quand il parle de pas sonner comme un harmonica, effectivement, moi sur le dernier morceau qui s'appelle Nana, c'est plus un hommage à Armstrong et à Chet Baker qu'aux harmonicistes. C'est vraiment ce son que je cherchais, mais c'est vrai qu'après on peut pas, pour le coup, dans le travail d'un instrument, autant dans les styles de musique qu'on aborde, et quand on compose une chanson, on peut le faire mais il faut savoir où est-ce qu'on veut aller avec un instrument. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être le gars qui vous fait un petit coup de polka, et puis après il vous fait un peu de musique irlandaise, ouais. Et puis après il vous fait un peu de blues, mais tout ça est mal fait, il y a pas beaucoup de feeling, parce que finalement on est, donc voilà. Et je pense qu'il faut vraiment avoir son son. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une identité sonore avant tout, parce que c'est avant tout un son. Et voilà. Et surtout que l'harmonica, pour moi, je le pense vraiment comme une voix, plus que comme c'est réellement un instrument. Effectivement, on parlait des difficultés techniques. Il a raison de pas commencer comme ça en se disant, parce que tous les instruments ont leurs difficultés. On se fait mal aux doigts avec la guitare, avec le violon aussi. Oui. Là, il y a aussi quand même des choses. Faut savoir qu'effectivement, comme il disait sur l'harmonica diatonique, il y a pas toutes les notes. Faut les sortir. Il y a des notes qui sont pas là naturellement, donc il va falloir
les chercher.
Aller les chercher. Mais ça donne des tessitures. D'un coup, ça nous ouvre un monde sonore incroyable. Voilà, en fait.
Merci beaucoup tous les deux d'être venus dans VMDN nous faire partager votre passion. Charles Pazzi, l'album Sometimes Awake chez Believe est en tournée à compter du 23 janvier. Ça commence à Arles, puis Marseille. Merci beaucoup Alexandre Tolon. On se quitte donc avec quelques notes de votre dernier album. Le morceau s'appelle Greatness in You, et vous m'en direz des nouvelles.